Solidarité anti-Covid-19, partout dans le monde et aussi sur Libre Radio. Ensemble, nous combattons le coronavirus. Retrouve les podcasts et des informations vérifiées sur www.libradio.org.
Nous sommes jeudi 9 avril à l'aune de ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire que c'est la crise sanitaire du Covid-19. Et nous faisons un petit peu le tour, radiophoniquement par contumace, des différentes entités qui œuvrent pour que, eh bien, le monde continue de tourner et que surtout les personnes continuent d'échanger, de se rencontrer et pourquoi pas de s'informer. Alors nous sommes maintenant en compagnie de Valérie Vuy, qui est directrice de Décadré. Décadré, c'est un autre regard sur l'actualité, une association qui s'occupe de beaucoup de choses dont tu vas nous parler, dont tu vas nous détailler les activités puisqu'il y en a plusieurs. Bonjour à toi Valérie.
Bonjour.
Alors, voilà, on peut y aller directement. Le site internet, c'est www.décadré.com avec deux E, décadré. Le site internet est très bien fait. Il y a plein d'onglets qui évoquent l'écriture inclusive, le web journal, les violences sexistes, la publicité sexiste, les formations, etc., etc. Voudrais-tu nous dire qu'est-ce que Décadré et quel rôle tu y joues ?
Alors, Décadré, donc c'est une association qui fait principalement aujourd'hui de la recherche et de la formation sur l'égalité de genre dans les médias. On agit sur plusieurs niveaux. On agit d'abord sur une formation non formelle pour les jeunes avec le Web Journal, qui est en fait une plateforme d'expérimentation pour se tester au journalisme et surtout à un journalisme non stéréotypé. Alors aujourd'hui, il y a plein de personnes bénévoles qui s'investissent, qui font des vidéos, qui font des podcasts, qui font des articles, des illustrations. Il y a énormément de contenu qui sort par ce biais. Et puis, à un deuxième niveau, on agit aussi auprès du grand public et des professionnels en sensibilisant à travers des projets. Donc on a des projets de formation sur l'écriture et la communication inclusive. On a un projet sur la sensibilisation au traitement médiatique des violences sexistes. Donc on dialogue avec les journalistes sur la manière dont on parle des violences et comment justement un article peut être vecteur de sensibilisation ou au contraire vecteur de la culture du viol et du coup être négatif. Et puis, pour finir, on a également un projet depuis peu de la publicité, genre et publicité en ville de Genève. On mène une recherche pour essayer d'identifier les actions qui pourraient être menées pour débarrasser la ville des images sexistes. Mmh.
Très bien, ça c'est pour les différentes activités de l'association. Voudrais-tu peut-être préciser ce que tu entends, parce que c'est un mot, c'est un concept extrêmement, extrêmement important, mais qui est peut-être encore ignoré par le plus grand nombre. Qu'est-ce qu'on entend par la culture du viol ?
Alors la culture du viol, c'est toutes les idées, les dires, les représentations, tous les messages qui vont contribuer à perpétuer les violences. En fait, la culture du viol, c'est dire qu'une femme est responsable d'une agression parce qu'elle était seule dans la rue le soir, parce qu'elle l'a provoquée, parce qu'elle était habillée de manière avec une jupe courte ou parce que elle a par exemple invité une personne chez elle, un homme chez elle le soir. Toutes ces idées, finalement, elles sont présentes dans la culture, dans les films, dans les livres, mais aussi dans les messages que l'on a et que l'on entend dès l'enfance. Et elle a la particularité, cette culture, de nier la notion de consentement et de retourner la responsabilité des violences de l'agresseur à la victime. Donc, c'est la victime qui devient responsable des violences parce que l'agresseur serait finalement animal, incapable de se contrôler, incapable de comprendre les codes du consentement. Il s'agit de mythes, d'idées reçues qui sont présents partout et notamment dans les médias.
Alors voilà, tu as lancé ce mot, un des mots importants et sur lequel vous vous arrêtez longuement à décadrer, ce sont les médias. Alors quelle est la situation actuellement? Est-ce que vous, lorsque vous sollicitez les médias, lorsque vous y intervenez, quel accueil recevez-vous? Est-ce qu'on voit qu'il y a des gens qui comprennent qu'il y a une situation problématique par rapport à ça ou y a-t-il des résistances?
Alors aujourd'hui, de manière générale, si on nommait la situation Covid-19, ce qu'on observe, c'est que les médias sont de plus en plus ouverts à la situation. Alors ça demande du temps, ça demande de revenir peut-être plusieurs fois, de s'adapter, d'adapter son message. Mais aujourd'hui, le positif, c'est qu'il y a une ouverture, après, de l'ouverture au dialogue, à changer sa pratique et sa manière de faire, il y a encore un grand pas, et ce pas, il n'est pas fait par tous les médias. On observe par contre, c'est que de plus en plus, certains médias s'engagent, et lorsqu'il y a un engagement de la part d'un média, on observe une modification dans les pratiques. Ce que je voulais préciser, c'est que donc avec cette crise du Covid-19, c'est clair que aujourd'hui, les médias, ils sont aussi dans une situation qui est très délicate parce que les revenus publicitaires baissent, parce que ils doivent aussi s'adapter, télétravailler, hein. Et tout ça, finalement, nous, on le prend aussi en compte. Hein. C'est important de considérer que pour faire du bon journalisme, il faut des médias en bonne santé. Et on verra. La situation, comment elle va évoluer et la situation économique qu'on va retrouver après, ça va influencer le traitement des violences. Ça, c'est évident.
Alors voilà, on y est en plein. Là, on est dans un confinement relatif parce qu'effectivement, les gens peuvent quand même un tout petit peu sortir pour voilà faire des petites choses vraiment importantes. Mais de plus en plus, les personnes restent à la maison. Est-ce que selon toi, selon vous, depuis votre position, on assiste à là aussi un changement et à ce que cette problématique eh bien surgisse encore plus fort, cette problématique de violence domestique, de violence sexiste?
Alors, oui, il y a beaucoup d'inquiétudes de la part des associations, de la part également des institutions publiques face à cette situation, parce que la situation de semi-confinement, elle est critique face aux violences, notamment aux violences au sein du couple, aux violences conjugales, pour deux raisons très simples. Une première raison qui est que finalement, une victime est confinée avec son agresseur. Elle a moins de solutions pour finalement s'échapper. Et puis, une deuxième raison qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation spécifique de perte de contrôle, d'angoisse, avec des tensions aussi qui peuvent s'exacerber. Et on sait que la violence conjugale, elle est multifactorielle. Et justement, ces différents facteurs, on doit aussi les prendre en compte. Et là, dans cette situation, on a des risques supplémentaires. Ensuite, moi, je pense que ce qui est très important de comprendre, et ce que j'ai malheureusement parfois entendu dans les médias ces dernières semaines, c'est qu'il ne faut pas confondre la tension que l'on peut vivre au sein d'une famille ou d'un couple face à la situation avec une augmentation peut-être des disputes, une augmentation de la tension parce qu'on est tous agglutinés dans un espace et que on doit s'adapter les uns aux autres. Avec une tension qui, elle, est née peut-être d'avant et qui est la source de la violence conjugale. C'est pas parce que finalement, et je pense que c'est important de pas mélanger ça, parce que ça minimise la violence conjugale, et que là, il y a vraiment, aujourd'hui, en faisant la veille médiatique, je l'ai encore vu, des femmes qui meurent, des femmes qui sont tuées, et c'est extrêmement important de le souligner.
Oui. Caroline, veux-tu intervenir?
Oui. Alors, moi, j'aurais une question. Comment a commencé Décadré? Quel était le constat par rapport à la place des femmes dans nos sociétés qui vous ont poussé à vouloir former un groupe, à prendre ces questions à bras-le-cœur?
Oui, alors le constat, c'est vraiment qu'aujourd'hui, même si on parle de plus en plus d'égalité, même si les femmes ont de plus en plus de place dans la société, le sexisme est présent encore partout. Il est présent dans les comportements et il est aussi présent dans les représentations, dans les messages et dans les images. En fait, le constat qu'on a posé, nous, c'est que si on veut changer les comportements, il faut avant changer ces représentations et ces messages qui vont nous influencer indirectement. Souvent, on n'a pas vraiment conscience, hein. C'est des choses qu'on intègre et qui vont ensuite avoir une influence directe sur les comportements. Il n'y avait aucune association à notre connaissance qui travaillait uniquement sur les médias, les représentations. Et on s'est dit que justement, on pouvait ici apporter un travail complémentaire à ce que font les autres.
Depuis le 14 juin de l'année passée, est-ce qu'il y a eu une évolution favorable pour la place des femmes dans notre société?
Oui. Alors, effectivement, Décadré est né en 2016, donc l'association va fêter ses 4 ans. Et en 4 ans, on a vu que les choses ont évolué. C'est peut-être progrès, c'est un grand mot, parce que un progrès, ça s'évalue dans le temps, ça s'évalue à différents niveaux. Ce qu'on peut aujourd'hui constater, c'est que en termes de médias, il y a des prises de position qui sont faites. C'est que il y a justement la thématique égalité à travers notamment la grève, mais à travers aussi le mouvement MeToo qui est arrivé juste après la création de Décadré, qui est de plus en plus porté, visibilisé, je dirais compris. Maintenant, notre mission, c'est de faire perdurer ces messages-là, continuer à les expliquer et que ces paroles, je dirais, deviennent des actes et des prises de position.
Oui, en fait, je voulais savoir si vous aviez un lien privilégié avec l'université, si c'est important d'avoir un contact positif avec le monde académique. Par exemple, avec la faculté des études du genre.
Alors, on essaye de garder un lien avec les études genre. Par les personnes, par des dialogues, par le réseau, parce que effectivement, je pense que le travail qu'on fait, il est complémentaire. À Décadré, on essaye vraiment de baser notre travail, le savoir aussi qu'on crée sur le terrain, avec des demandes de terrain qui sont très concrètes. Et puis, pour ça, on se base aussi sur les connaissances plus académiques qui vont être créées aux études genre. Moi, j'y viens, j'ai été formée là-bas. Aujourd'hui, on a aussi une assistante de projet qui termine son master. Donc, c'est vrai que la relation, on essaye de la maintenir à travers le réseau.
Vous avez évoqué plusieurs fois l'écriture inclusive. Qu'est-ce que l'écriture inclusive et quel est son rôle?
L'écriture inclusive, c'est pour nous l'ensemble des attentions graphiques et syntaxiques qui peuvent être portées dans la langue pour atteindre une égalité de représentation de toutes les personnes. Donc c'est finalement un outil qui nous permet d'utiliser la langue pour ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire l'outil qui nous sert à représenter la société telle qu'elle est et à construire notre pensée à travers une société justement représentée. Décadré fait des formations sur l'écriture inclusive. On la promeut en expliquant justement qu'il y a plusieurs outils qui existent, qui peuvent s'adapter à différentes pratiques, et en accompagnant les entreprises, les structures, les personnes dans cette démarche pour qu'elles trouvent les outils qui sont adaptés à leurs pratiques. C'est indispensable parce que la langue, c'est l'outil, comme je l'ai dit, qui nous sert à penser. C'est l'outil qui nous sert à dialoguer. Alors, finalement, c'est notre quotidien. Les représentations au quotidien, les messages au quotidien. Et ce quotidien-là, aujourd'hui, il est biaisé, il est inégalitaire.
Ok, alors Valérie, on le rappelle, le site internet c'est www.decadré.com. Vous êtes également présente sur les réseaux sociaux et notamment Facebook.
Tout à fait, sur Instagram, Twitter. Et on a également, je sais pas si on peut appeler ça des réseaux sociaux, mais enfin des réseaux sociaux, pardon. Mais on a également tous nos podcasts qui sont diffusés sur Spotify et SoundCloud.
Donc tout ça est tout à fait accessible. Parlons un petit peu de Décadre ton confinement, parce que là c'est tout à fait singulier et tout à fait original. Ce sont des ateliers, des formations en ligne gratuites hein, pour lesquelles on peut s'inscrire justement via le site internet, qui sont à destination des adultes certes, mais pas que, également des ados dès 12 ans, c'est ça?
Tout à fait. L'idée pour nous c'était... Quand on a eu ce semi-confinement qui a été déclaré, on a attendu quelques jours et après, une fois que la première crise est passée et que chacun et chacune a pu s'adapter au mieux, on s'est dit mais finalement, comment nous à Décadré on peut contribuer et est-ce que les personnes ont envie d'avoir du contenu et d'avoir accès à du contenu? Et moi, je voyais tous les cours de yoga, les cours de sport en ligne qui commençaient à s'organiser. Et je me suis dit, mais nous, on donne des formations, c'est une grande partie de nos activités. Donc, est-ce que ces formations-là, on pourrait pas les faire en ligne? On a fait un peu le pari de proposer une heure de formation tous les mercredis soirs sur des thématiques qui sont portées par l'association. C'est gratuit parce qu'on voulait que ça soit accessible à tout le monde et puis parce que justement notre objectif c'est finalement de contribuer à cette période de pouvoir voilà contribuer à cette période qui est spécifique. Et puis, on donne la possibilité aux personnes qui ont les moyens de aussi pouvoir nous soutenir à travers des dons. Donc, tous les mercredis soirs, on fait une petite formation pour les adultes. On a fait l'écriture inclusive. Hier, on a eu l'occasion de discuter de la publicité. La semaine prochaine, ça sera sur les violences. Et puis, j'en ai lancé une aujourd'hui qui est sur le site internet. Comme le confinement va continuer, la semaine d'après, donc le 22 avril, on va discuter plus généralement de l'égalité dans les médias. Normalement, lorsqu'ils sont à l'école, ils ont accès aussi à des contenus qui sont un petit peu différents du programme scolaire. Hein, il y a des interventions sur l'égalité, mais on avait été mandaté pour une intervention qui a dû être annulée. Et donc, on a aussi fait le pari, et puis on s'est dit, il y a peut-être un intérêt de la part des parents, de la part des ados, d'avoir peut-être d'autres thématiques qui sont abordées sur ce temps de confinement. On a donc proposé une formation mardi sur la publicité. Et puis, le 21 avril, on en propose une nouvelle, cette fois qui sera justement basée sur les séries, le contenu culturel,
Ah, Valérie, là on t'entend très très mal.
Ouais.
Ah voilà, là c'est tout bon. Peux-tu répéter la dernière phrase?
Oui. Alors donc le 21 avril, on va reproposer une formation pour les ados sur cette fois les séries et puis leur contenu féministe et sexiste et animer finalement une discussion sur cette thématique-là.
Donc pour résumer, c'est le 15 avril de 17 à 18 heures, les violences, savoir les mots justes. Mais celle-là, elle est complète déjà, crois-je. En tout cas, il m'a semblé avoir lu ça sur le site.
Ouais, celle-là, elle est complète pour l'instant. Il y a les deux formations qui sont encore disponibles. C'est le 21 avril pour les ados sur les séries et le 22 sur l'égalité dans les médias pour les adultes.
Voilà, et pour s'inscrire, donc il suffit d'aller sur le site internet, il y a un onglet correspondant et on s'inscrit en ligne.
Exactement. En fait, ça, c'est très simplement, l'onglet, il vous invite à m'écrire un mail et faut simplement me signaler que vous avez envie de vous inscrire et puis ensuite, moi, je note, j'envoie un mail une semaine avant avec toutes les indications et puis on se retrouve le soir ou pour les ados juste avant midi en ligne. Je fais une présentation souvent un petit peu en mode où je parle une trentaine de minutes sur le sujet et puis après on a une trentaine de minutes avec quelques exercices pour la discussion. J'avais envie que malgré l'outil en ligne qui permet un tout petit peu moins que le présentiel, de quand même garder une bonne partie de participation.
Et pour ces deux formations-là, y a-t-il encore pas mal de places ou est-ce que les gens, eh bien, ils seraient avisés d'accélérer un petit peu le mouvement et de s'inscrire assez vite?
Alors, pour l'instant, il y a encore pas mal de places. Je les ai lancées il y a quoi, 3-4 heures, donc ça va venir. Par contre, effectivement, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a quand même un grand succès. Et la première formation, elle était pleine en 2 jours. Alors, si vous avez un intérêt, faut pas hésiter à y aller. Pour les ados, c'est toujours un tout petit peu plus difficile de les toucher. Donc là, je dirais, n'hésitez surtout pas à diffuser autour de vous, à en parler, si vous connaissez des ados, si vous avez accès à d'autres structures qui proposent des activités, parler de cette formation. On a fait la première et c'est vrai que c'était vraiment intéressant pour elle parce qu'il y avait que des filles et pour nous.
Alors, tu as dit, hein, vous vous occupez, vous interrogez, vous questionnez les médias à ce propos-là, mais concernant typiquement cette population spécifique, hein, celle des adolescents, est-ce que, voilà, vous iriez, si on vous sollicitait, dans les maisons de quartier ou dans des structures où justement, eh bien, on en rencontre plus facilement et de manière et de nombreux adolescents?
Alors oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment un projet. On a déjà eu fait des ateliers avec les ados. On avait envie de continuer à les faire et puis de se baser aussi sur les projets qu'on a actuellement, notamment la publicité. Donc pour l'instant, les faire en ligne, c'est aussi une manière de garder contact avec ce public-là. Et puis, pour le futur, on l'espère cet été, on serait effectivement très heureux et heureuse de pouvoir donner des formations en présentiel dans les maisons de quartier ou dans des camps ou n'importe quelles activités qu'elles seraient amenées à visiter.
Oui, parce que, et la suite alors, actuellement, eh bien, on est dans cette situation de confinement, de semi-confinement, comme tu l'as dit. Allez-vous reconduire, en tout cas pour peut-être, eh bien, après la fin avril, pour le mois de mai, et peut-être même déjà juin, est-ce que vous pensez reconduire ces formations par contumace?
Pour l'instant, on se projette semaine après semaine. Donc là, on a eu l'annonce que le confinement serait prolongé jusqu'au 26 avril et on a décidé de proposer pour cette semaine, la semaine avant le 26, de nouvelles formations. Ensuite, pour moi, c'est un questionnement qui reste encore ouvert. Est-ce que déjà des formations en ligne peuvent continuer selon les étapes du déconfinement? Et puis, est-ce que par la suite aussi, des formations en ligne seraient appréciées de manière générale par les personnes. Ça, c'est des choses qu'on va évaluer. Pour rester connecté sur nos pages Facebook, nos pages Internet, on met tout à jour instantanément. Dès qu'on prend une décision, on le met à jour. Du coup, si on décide de continuer à des formations, vous serez tenu au courant.
D'accord. On arrive doucement au terme de cet entretien. J'aurais voulu encore te questionner, et puis Caro, après, si tu veux conclure, j'aurais voulu te questionner à propos de nouveau des adolescents, parce qu'on le sait, les adolescents, c'est tout de même un public spécifique, avec ses langages, et c'est justement là où, eh bien, il peut y avoir des choses qui sont très différentes. Voilà, il y a des langages qui peut-être pourraient être ressentis comme offensants, ou voilà, pour des adultes, et qui pour eux le sont moins, parce qu'ils sont entrés dans une sorte de, voilà, de norme qui leur correspond. Alors, qu'en est-il du langage chez les ados? Est-ce que ça, c'est également au-delà, parce qu'on parlait des médias, bien entendu, et de votre acuité à veiller sur ce que disent les médias, y a-t-il également une problématique en termes de langage, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie, qui est tout à fait spécifique aux adolescents?
C'est une très bonne question, et puis je dois avouer que je ne m'étais pas forcément penchée auparavant sur la question. Je pense que ce qui est important avec le langage de manière générale et l'inclusivité dans le langage, c'est de comprendre que la langue n'est pas anodine, que parler a des conséquences et que les mots qu'on utilise ont des conséquences et ont une histoire. Hein. Mmh. Et puis, dès le moment finalement où on comprend ça, ça peut être quelque chose que font les adultes, ça peut être quelque chose que font les ados, hein, avec d'autres langues. On a déjà fait un premier pas pour se questionner. Moi, je pense que ce qui est important de faire, c'est quand on utilise un mot, il faut comprendre pourquoi on l'utilise et les conséquences qu'il y aura. Et moi, je me permettrai pas, sans avoir ces questionnements-là avec eux et elles, de critiquer le langage des adolescents, qui, je pense, c'est un langage qui leur est propre. Par contre, je pense que ça peut être très intéressant de les accompagner dans cette réflexion-là pour qu'ils prennent conscience eux-mêmes de ce pouvoir de la langue.
Et également concernant les médias qui sont à destination des plus jeunes, parce qu'on a effectivement des médias, des masses médias tels que la télévision et tout, qui sont à destination peut-être des adultes a priori plus, mais ils sont tout de même entendus, écoutés et accessibles aux plus jeunes. Et effectivement, là, il y a peut-être un travail à faire un peu plus spécifique.
Tout à fait. Je pense que l'éducation aux médias, alors de manière générale, mais aussi comprendre justement que les informations que l'on a sont d'une certaine manière biaisées. Je pense que ça, c'est extrêmement important, notamment pour les ados, qui commencent justement à prendre en autonomie, à découvrir seuls les informations, à se faire leur propre opinion. Donc finalement, leur expliquer qu'il faut aussi avoir conscience de ses biais, croiser les sources, aller chercher ailleurs pour se faire une véritable opinion, c'est essentiel.
Alors dis-moi, Valérie, de quoi avez-vous besoin au sein de l'association des cadrés? On va terminer sur ces quelques questions-là. Est-ce que, eh bien, vous êtes à la recherche de quelques fonds, parce qu'il faut bien financer tout ça? Est-ce que vous êtes à la recherche de forces vives, de personnes qui pourraient soit vous rejoindre, soit vous inviter et puis vous permettre, voilà, d'avoir des espaces où vous puissiez procéder à des ateliers? De quoi spécialement avez-vous besoin?
Alors, je dirais, on a peut-être trois possibilités de nous aider, de collaborer avec nous. La première possibilité, c'est effectivement qu'on a cet espace si on a, je dirais, on a n'importe quel âge, hein, mais là, l'équipe est plutôt composée de jeunes entre 20 et 30 ans, qu'on a envie de se tester au journalisme, de faire des podcasts, de faire des BD, de faire des articles. Il y a la possibilité de nous contacter pour faire partie du web journal. Bien sûr que Deck & Ray a également besoin de soutien. On peut devenir membre de l'association. Dans cette période aussi un peu critique, on a eu des formations qui se sont annulées, des contrats, des mandats qui se sont annulés. Donc, si vous avez la possibilité, on peut aussi faire un don spécifique. C'est tout sur le site internet. Et puis, la dernière chose, c'est que, voilà, La situation, elle va s'améliorer, ça c'est sûr. Et puis, on va pouvoir un jour se revoir et redonner des formations en présentiel. Donc, si vous faites partie d'une structure, d'une entreprise, d'une association qui s'interroge sur la communication, sur l'écriture inclusive, vous pouvez nous contacter pour organiser une formation ou du consulting sur ces questions.
Très bien. Alors, on le rappelle, le site internet www.décadré.com. Décadré, ça s'écrit avec deux E. Et puis, les réseaux sociaux et notamment Facebook, là aussi, Décadré, un autre regard sur l'actualité. Vous êtes là, vous êtes présente et vous répondez aux sollicitations. Caro, voudrais-tu le mot de la fin ?
Bah, en tout cas, merci beaucoup. C'est génial tout le travail que vous faites. Je pense que ça a un impact réel et important. En tout cas, bravo.
Merci, merci à vous pour l'invitation. Ça fait plaisir de pouvoir aussi avoir un espace pour communiquer aussi à d'autres personnes sur ces différentes actions. C'est vrai qu'avec ce confinement, on est un petit peu moins en contact avec des personnes, donc c'est un grand plaisir.
Valérie, tu es donc directrice de Décadré. On te remercie beaucoup et de toute manière, on va se recroiser bien entendu pour suivre un peu toutes ces affaires. Merci à toi.
Merci.
Merci beaucoup.